terminer ce matin l'histoire de Saül. Et il restait un petit morceau la dernière fois et je m'étais dit, bon, je pense que c'est le Seigneur qui me l'a mis sur le cœur. J'ai dit je, mais non. On ne va pas terminer sur la note triste de ce chapitre 31. On va aller un petit peu plus loin parce que c'est un petit peu démoralisant hein, ce qui est arrivé à ce brave Saül. Je pense qu'on a aussi des choses positives à en tirer. Donc on va juste relire la fin. Vous vous souvenez du contexte. Les Philistins avaient attaqué Israël. Et vous vous souvenez que Saül était allé consulter une magicienne pour savoir ce qui allait se passer, pour savoir comment il devait se positionner, etc. Et il voulait surtout parler à Samuel. Et le message qui lui a été donné était le même qu'il avait toujours reçu. Parce que tu as désobéi à Dieu. C'est terminé pour toi, en gros. Il est quand même allé à la bataille. Il avait toutes les possibilités de demander pardon à Dieu et de revenir en arrière. C'est ça qu'il faut jamais oublier quand on lit la Bible. On peut la lire avec un œil dur et se dire, c'est fini pour lui. Et si on connaît bien la Bible, on s'aperçoit que toutes les histoires de la Bible, il y a toujours une possibilité de revenir vers Dieu. Faut pas s'imaginer qu'il n'avait pas la possibilité. Saül avait cette possibilité. Et il ne l'a encore pas prise. Même au dernier moment, il ne l'a pas prise. Et vous savez, parfois on se dit, c'est curieux que des gens, même au seuil de la mort, continuent à refuser de se présenter devant Dieu, de demander pardon, de s'assurer de leur éternité. Et ça existe. Ça peut sembler bizarre, mais ça existe. Et ça ne veut pas dire que Dieu refuse à les gens. C'est les gens qui refusent Dieu. C'est pas la même chose. Je me souviens une fois des élèves de 5e m'avaient dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe dans l'éternité? Est-ce que vraiment l'enfer existe? Est-ce que le paradis existe? Je dis, écoutez, tel que c'est décrit dans les peintures du Moyen-Âge, je ne pense pas, mais tel que c'est décrit dans la Bible, oui. En gros, il y a le choix entre un lieu où on est avec Dieu et un lieu où on est sans Dieu. C'est-à-dire sans Dieu, sans foi ni loi, sans valeur, sans rien, ou un lieu où il y a les valeurs de la foi, les valeurs de l'amour, l'espérance, etc. Et dit oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe si au dernier moment on s'aperçoit qu'on s'est trompé? Je dis, si tu as encore envie, il n'y a pas de raison. Dieu peut t'accueillir jusqu'au bout. Et après? Je dis après, c'est pas normal, madame, que Dieu mette des gens en enfer, c'est-à-dire dans un lieu où Dieu n'est pas. Je voudrais qu'on laisse tomber les images des diables avec leurs fourches, etc., par pitié. Un lieu où il n'y a absolument pas d'amour, où il n'y a aucune valeur, etc. C'est pas normal. Alors je dis, mais attends, le fait est que Dieu est gentleman. Il va pas obliger les gens à être en sa présence. Si toute leur vie, ils ont refusé que Dieu soit à leur côté, ce serait un comble qu'il les prenne de force. Ça, il y a quelque chose dans la Bible qu'on verra toujours, c'est qu'il ne prendra jamais les gens de force. Jamais. Il respecte notre liberté. Et c'est ça qui fait que le christianisme est un petit peu compliqué. Ce n'est pas une religion qu'on peut imposer. Et tous ceux qui ont essayé d'imposer le christianisme, que ce soit par les croisades, par l'inquisition, par n'importe quoi, ils ont fait erreur. Ce n'est pas du tout dans l'esprit de la Bible. La foi en Dieu ne peut pas s'imposer. Elle s'impose d'elle-même, ou les gens sont libres de la refuser jusqu'au bout. Dieu est un Dieu qui respecte notre liberté. C'est peut-être ça la différence avec beaucoup, beaucoup d'autres religions. Il respecte notre liberté. L'homme est libre, il l'a créé libre de choisir ou de refuser. Et Saül avait cette liberté. Et c'est sûr que Dieu ne va pas nous obliger à être en sa présence. Si toute notre vie, on a considéré qu'on n'avait pas besoin de lui, qu'il n'existait pas, etc. Il respectera jusqu'au bout. Et cette petite fille de me dire, mais madame, alors, qu'est-ce qu'on peut faire après? Je dis, le problème, c'est qu'on ne peut plus rien y faire après. Donc, il faut mieux choisir avant. Après, ce sera trop tard. Mais c'est sûr que Dieu t'obligera jamais, jamais, jamais. C'était un petit peu un dilemme pour elle, parce qu'elle trouvait que c'était quand même dur. Mais elle reconnaissait quand même la logique de la chose, et c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de gens, surtout dans notre civilisation occidentale, c'est pas évident. Ah, par contre, je me souviens quand on avait invité, je ne sais pas si vous vous souvenez, le dernier culte en commun, on avait fait intervenir des gens qui venaient de pays où la foi était persécutée. Et j'avais accompagné la petite dame syrienne depuis Mantes jusqu'ici. Et dans la voiture, elle me disait, mais je ne comprends pas. En France, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. J'ai fait, bah oui, beaucoup. Mais ce n'est pas possible. Venant du Moyen-Orient, d'un monde où tout le monde croit en Dieu, on peut l'appeler différemment, ça ne peut pas être exactement le même Dieu, mais c'était impensable pour elle. Elle me dit, il croit vraiment que tout s'est fait tout seul? Je dis, oui, c'est pas possible. On est tellement habitué à notre civilisation occidentale qu'on ne se rend pas compte que pour des gens d'un autre pays, d'un autre milieu, d'une autre culture, c'est impossible. On n'a jamais rien vu se créer tout seul. Création spontanée, sans cause. Mais, dis, mais c'est pas possible que des gens intelligents en Occident soient incapables de croire que Dieu a créé le monde. J'ai dit, si. Oh, elle était, mais sidérée, complètement. Et sa façon de réagir m'a beaucoup parlé, parce que nous, on est tellement habitués à tous ces raisonnements alambiqués qui essaient de vous prouver que l'homme descend du singe, de l'amibe ou de je ne sais quoi, l'étoile de mer ou tout ce qu'on voudra, avec tous les changements biologiques hein, qui ont dû se faire sur l'ADN qui sont absolument incroyables. Mais bon, on accepte ça parce que, comme disait un scientifique de renom, on refuse de croire qu'il y a un créateur. Donc il faut qu'on invente autre chose. On vit dans un monde un petit peu curieux. Ceci étant, il y a toujours moyen de revenir vers Dieu. Et Saül a eu cette occasion de revenir vers Dieu. Il l'a pas prise, il est donc parti à la guerre. Et vous vous souvenez que la semaine dernière, on a vu que progressivement, la bataille s'est concentrée sur lui. On voit d'abord, ils ont livré bataille à Israël. Il y a beaucoup d'Israélites qui ont dû fuir pour échapper. Il y a beaucoup de victimes qui sont tombées sur le mont, la montagne, où ils sont combattus, Gilboa. Et puis, les Philistins se serrent de près Saül et ses fils, et ils tuent Jonathan et ses deux frères. Et le poids du combat se porte sur Saül, et ce sont les archers qui l'ont trouvé. Et là, il a tremblé de peur. Ce qui est très étonnant, chaque fois qu'on voit David trembler de peur, et ça arrive, David fut dans une grande détresse, et il invoqua l'Éternel. Eh bien, Saül, non. C'est terrible de voir cet endurcissement à son propre détriment, quoi. Alors surtout qu'on ne se mette pas à faire ça. Hein. N'ayons pas peur quand on est dans une situation de détresse de crier au Seigneur, parce que c'est dommage quand même qu'il n'ait pas eu ce réflexe. Il tremble violemment, mais il n'appelle pas au Seigneur, le Seigneur au secours. Et il va même aller carrément vers la mort, puisque on savait que les Philistins n'étaient pas tendres, et comme les Assyriens après eux d'ailleurs, ils aimaient bien tuer les gens de façon la plus cruelle possible. Je ne vous décris pas les choses, mais c'était horrible. Et donc il savait que ce serait épouvantable, donc il a préféré se suicider. Il a demandé à quelqu'un de le tuer, « Tire ton épée, transperce-moi ». Mais évidemment, la personne n'était pas du tout prête à tuer son roi. C'était, je crois, son conducteur de char. Voilà. Et elle n'a pas voulu, évidemment, celui qui portait ses armes et son porteur d'armes. Et il avait trop peur pour faire ça. Et Saül, du coup, a pris son épée et s'est jeté dessus. Il est allé droit vers la mort, volontairement, alors qu'il avait le choix de la vie. Vous savez, j'aime beaucoup ce verset qui dit « Choisis la vie ». Et quand je lisais ça étant petite, je me disais... Ben voyons, bien sûr qu'on choisit la vie. Eh bien, plus j'ai vieilli, plus je me suis aperçue que non, parfois les gens choisissent la mort. Parfois par la peur. Je ne sais pas si je peux raconter l'histoire de Dominique, Marie-France, quand il avait peur. Oui, je pense que je peux, je pense. le mari de Marie-France, pendant une période, je crois que son père était mort à 60 ans, c'est ça? Son père était mort à 60 ans et arrivé à 60 ans? Grand-père aussi, oh là là. Voilà, et donc il y avait une peur sur 3 générations, ils étaient morts à 60 ans. Donc il y avait la peur, lui aussi, de mourir à 60 ans. Et quand on avait prié, je me souviens avec Marie-France, j'avais reçu ce verset, « Choisis la vie pour que tu vives. » Choisir que je crois que ça va se passer comme les générations précédentes. C'était en fait accepter et choisir la mort. Ça revenait à ça. Et on a prié, évidemment, pour Dominique. Et ben, il a quel âge maintenant, si ce n'est pas indiscret ? 77. Et il est toujours en forme. Dieu l'a béni ces derniers temps. Parce qu'il a été malade, mais il s'en est sorti. Vous voyez, je crois qu'il y a des moments dans la vie où il faut choisir la vie. Alors, ça peut se présenter de différentes formes. Pour Saül, c'était vraiment de crier à l'Éternel. Choisir la vie, ça aurait été de dire non. Je ne vais pas finir bêtement comme ça aux mains des ennemis que j'ai combattus toute ma vie. Non. Seigneur, pardonne-moi. Il a choisi la mort. Il a même choisi de se la donner lui-même. Il est allé droit. Et en fait, tout son parcours, ça a été ça. Bien, donc ce pauvre Saül disparaît. Son porteur d'armes, du coup, se donne la mort aussi. L'exemple, eh oui, ça fait école. Ses fils sont morts. Et puis, on avait vu la dernière fois que les habitants des villes quittent leur ville et que automatiquement l'ennemi s'y installe. Pareil dans notre vie. Si on quitte certaines choses, l'ennemi va s'y installer, quel que soit l'ennemi. Que ce soit des valeurs, que ce soit des façons de faire, etc. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les cadavres. Donc on est à 1 Samuel 31:8. Et ils découvrirent celle. Alors il faut faire bien attention à ce passage que vous allez voir. Les gens qui ne lisent pas correctement la Bible peuvent penser qu'il y a une contradiction avec ce qu'on va lire après. Donc on va lire attentivement. Le lendemain. Les Philistins vinrent pour dépouiller les cadavres. C'était la coutume. Il y avait du butin. Donc une fois que la bataille était finie, au lieu d'aller, comme fait la Croix-Rouge au début, la création de la Croix-Rouge, c'était ça, hein, pour sauver, guérir, panser les plaies des blessés, etc., on laissait tout le monde mourir et on s'occupait simplement de... On récupérait les casques, comme Obélix, les armes... tout le butin possible, les flèches, les arcs, les boucliers, etc., les vêtements. Et ils découvrirent Saül et ses trois fils qui étaient tombés au mont Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et le dépouillèrent de ses armes. Donc c'était le lendemain. Hein. Ils firent annoncer la bonne nouvelle par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés, c'était la déesse, et ils clouèrent son cadavre sur la muraille de Beth-Shan. Oh, c'est un peu chaud quand même. Hein. C'était cruel même avec les morts. Saül cloué sur la muraille, c'est quand même dur. Hein. On se dit, quel dommage qu'il en soit rendu là, alors qu'il avait si bien commencé. Et on va reparler un peu de ses débuts à cause du texte qui suit. Lorsque les habitants de Yabesh de Galaad apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants marchèrent toute la nuit et prirent de la muraille de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Yabesh où ils les brûlèrent. Et c'est un des rares cas de crémation qu'on a dans la Bible pour honorer les morts. Oui, il y en a très peu. En général, on ensevelissait ou on mettait dans des grottes après avoir embaumé le corps, comme ça a été le cas de Jésus. C'est un des rares cas. Je pense que le corps de Saül était dans un tel état qu'ils n'avaient pas non plus le temps de l'embaumer correctement pour éviter des contagions et tout. C'est vrai que les Juifs étaient très à cheval sur la propreté, l'hygiène. Et donc, ils ont préféré le brûler. Ils prirent leurs ossements et les ensevelirent sous le tamaris à Yabesh et ils jeûnèrent 7 jours. C'était un signe de tristesse, un jeûne. Alors, pourquoi les habitants de Yabesh ? Alors, si vous avez bien écouté l'année dernière, vous devriez savoir pourquoi. Et on va revenir un petit peu en arrière à cause des habitants de Yabesh. Ils étaient reconnaissants parce qu'ils se souvenaient des bonnes choses que Saül avait fait. Et j'ai pensé que nous aussi, on va faire ça. On va se rappeler du début de Saül, pour ne pas terminer sur une note trop tragique. Du début de sa royauté, où il avait délivré la ville de ses ennemis. Alors, on va faire un petit retour en arrière, 1 Samuel 11, parce que je pense que peut-être beaucoup ou ne l'ont pas entendu ou ne s'en souviennent plus. Et au passage, on peut remarquer que les gens d'Yabesh vont marcher toute la nuit pour aller chercher son corps. Et Saül, fut un temps, avait marché toute la nuit pour les délivrer. Donc, ils vont rendre à Saül ce qu'il a donné. Alors, les mauvaises décisions avaient rattrapé Saül, mais les bonnes n'ont pas été oubliées. Et ça, c'est important. Même si sa fin a été tragique, ce qu'il a fait de bien n'est pas oublié. Et ça, c'est important aussi pour nous. J'y pense, parfois, on voit des gens qui tournent mal et ça fend le cœur. Mais au lieu de leur jeter la pierre, je pense qu'il faut se rappeler de ce qu'ils ont fait de bien. Et ça ne veut pas dire qu'on leur donne raison dans ce qu'ils ont fait de mal après. Mais il faut penser qu'il y a eu un temps où ils ont fait bien. Hein? Et ça, c'est important. Donc, on va reprendre un peu cette histoire. C'était l'époque où les Israélites voulaient un roi. Et un roi comme les rois des autres nations. Parce que jusque-là, ils n'en avaient pas eu. Hein? Vous avez le livre des juges. C'était des chefs militaires ou des chefs religieux, ou les deux ensemble, et qui dirigeaient le pays. Samuel était le dernier juge, d'ailleurs. Et là, ils ont râlé auprès de Samuel en disant « Ouais, tes fils, ils ne sont pas terribles, donc ils ne vont pas te remplacer. » Ce n'est pas forcément le vocabulaire de la Bible, vous imaginez bien, c'est le mien. Mais voilà, on veut un roi comme les nations qui nous entourent. Bon, Samuel était quand même embêté, il voyait bien le danger. Il dit, mais pourquoi vous ne voulez pas que ce soit Dieu qui règne sur vous et que ce soit un prêtre qui vous dirige? Et voilà, ça laissait beaucoup plus de liberté, il n'y avait pas tout le protocole et tout ça. Mais ils étaient décidés faire comme les nations autour d'eux et d'avoir un homme en chair et en os là devant eux qui prenait la direction. On veut qu'il sorte avec nos armées, on veut qu'il fasse ceci, cela. Bon, en fait, ils voulaient un roi avec un cheval blanc, une cour, un palais, une armée, des serviteurs, tout un tas d'apparats. Ça les frappait dans les nations qui les entouraient. Les Philistins avaient des petits rois. Vous avez vu le copain de, de David, qui était un petit roi local. Ça leur plaisait. Samuel était découragé. Et il est allé voir le Seigneur, et le Seigneur lui a dit, en gros, là aussi c'est mon vocabulaire, c'est pas après toi qu'ils en ont, mais c'est après moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux, ils veulent plus que ce soit un Dieu invisible qui règne sur eux. Un Dieu qu'il faut consulter tout le temps, oh c'est casse-pied. Et c'est peut-être l'aspect de la vie chrétienne qui pose le plus de problèmes souvent, c'est cette dépendance à Dieu. Consulter Dieu quand on fait des choses, oh. C'est, voilà. Notre esprit humain indépendant n'aime pas trop ça. Et Dieu décide de leur donner un roi, finalement. Samuel va donc oindre un jeune homme de la tribu de Benjamin. Et vous rappelez comment ça s'est passé au début? Saül présentait bien. Il était jeune et beau. C'est exactement le verset, chapitre 9, verset 2. Il était jeune et beau. Il dépassait tous les Israélites d'une tête. C'était le plus grand du pays. Il venait aussi d'une famille riche, on peut dire, et de bons soldats. La Bible dit qu'ils étaient des bons soldats, des bons militaires. Ça allait souvent ensemble parce qu'ils payaient leur équipement. Donc, c'était des gens aisés qui pouvaient se payer tout l'équipement pour aller faire la guerre. Et au début, on va voir Saül qui obéit scrupuleusement à Samuel. Il est un roi, mais il ne fait pas d'histoire. Il rentre chez lui et il retourne à ses champs. Apparemment, ils avaient des grandes terres, en fait, un grand domaine. Il rentre simplement chez lui après la cérémonie. C'est un homme humble qui ne cherche absolument pas à se mettre en avant, ni même à changer son train de vie. Pas de palais, pas de cour, pas de serviteur. Et à notre plus grande surprise, quand il y a un problème, la ville de Yabesh en Galaad est attaquée par les Ammonites. Il n'y avait pas d'accord possible. Sauf s'ils acceptent d'avoir l'œil droit crevé. On a une petite idée de la sauvagerie de cette époque. Voyez un petit peu, quand on voit un peu comment se comporte Daesh, c'est pas d'aujourd'hui, c'est des choses qui sont dans certaines cultures, qui remontent. Attention à ce qui peut remonter dans notre culture à nous aussi, d'ailleurs. Des choses anciennes qui peuvent remonter. Et cette cruauté, pensez donc, tous les hommes leur crevaient l'œil droit. Et tous les textes archéologiques, historiques, enfin sur l'archéologie, disent bien que les gens étaient d'une cruauté incroyable. Bon, Saül, lui, quand il apprend la nouvelle, il rentrait des champs, derrière ses bœufs, vous vous souvenez? Derrière ses bœufs, pour un roi. Ça lui était pas monté à la tête, le fait d'être roi. C'est formidable, d'ailleurs. Il rentre des champs. Et là, on lui apprend, ben voilà, la ville de Yabesh va être prise par les Ammonites. Et le seul accord possible, c'est qu'ils aient l'œil droit crevé. Parce qu'ils voulaient faire un compromis, quoi, pour pas faire la guerre. l'œil droit crevé, ça veut dire qu'il ne pourrait jamais se battre parce qu'on a besoin, les archers ont absolument besoin de l'œil droit pour viser. Saül est complètement choqué et la Bible dit le souffle de Dieu s'empare de lui. C'est-à-dire d'un seul coup, il sent que Dieu lui dit là, ça suffit, tu vas réagir. Et il se sent fort d'un seul coup et il organise très rapidement la défense de la ville de Yabesh. Il exige que les hommes d'Israël s'engagent derrière lui en faisant sacrifice d'un bœuf, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il leur dit, voilà, vous serez coupés en morceaux comme ce bœuf si vous ne me suivez pas. Ouh, message puissant, ils aimaient bien les images vivantes, ou mortes pour, le cas, pour ce cas-là. Et il divise la troupe, toute l'armée en trois bandes, trois troupes différentes. Et ils vont marcher toute la nuit pour arriver à 2 heures du matin, donc la nuit, le soir et puis une bonne partie de la nuit, pour arriver entre 2-3 heures du matin sur la ville de Yabesh, sur le camp des Ammonites. La victoire a été totale, la surprise était totale, et comme ils avaient fait une bonne stratégie, hein, trois troupes, ils ont pris plus qu'en étau, puisqu'il y en avait trois qui arrivaient dessus. Victoire totale, et les habitants de Yabesh. Vous imaginez le sentiment de libération. Quand vous saviez que votre père, votre frère, votre mari allaient avoir l'œil droit crevé, vous imaginez, la reconnaissance était folle. Enfin, c'était horrible, la pression. Se dire, mais ça va être horrible. Et libéré, parce que Saül a eu le courage d'aller jusqu'au bout et d'entraîner les gens derrière lui. Je pense à cette libération qu'on ressent aussi quand on sait ce qui nous attend parce qu'on s'est mis dans des pétrins, parce qu'on a fait des bêtises, parce que, et qu'on va vers le Seigneur et qu'il vient nous libérer, qu'il vient régler notre situation. Cette reconnaissance qu'on a dans le cœur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Tout ce qu'on mérite, c'est un châtiment. Jésus a porté ce châtiment sur la croix pour que nous, on n'ait pas à le supporter. Et alors, il y a des gens qui disent, oh ben, c'est trop facile, il suffit de demander pardon à Dieu, puis c'est réglé. Ah oui, parce que vous demandez facilement pardon aux gens que vous avez offensés. C'est facile de demander pardon. Si c'était vrai, il y aurait beaucoup de familles qui seraient restées dans l'unité. C'est pas facile de demander pardon. C'est absolument pas facile. Et surtout quand on se justifie, c'est encore pire. La reconnaissance qu'on doit avoir, nous, en tant que chrétiens, de savoir que si on veut bien demander pardon à Jésus pour nos fautes, il nous libère et il nous sort du pétrin. Alors là, on pourrait avoir des milliers de témoignages de gens qui se sont mis dans des situations épouvantables et comment Dieu les a sortis d'affaires quand ils ont seulement bien voulu demander pardon et démarrer une vie avec le Seigneur. Et du coup, il y a cette reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle n'est pas partie chez les habitants d'Yabesh. Pourtant, je pense que parfois, ils devaient trouver qu'il abusait un peu Saül, qu'il n'était pas sympa avec David. Mais ils ont gardé cette reconnaissance jusqu'au bout. À cette époque-là, Saül, on peut dire, il était obéissant. Il restait aux côtés de Samuel. Et Samuel a beaucoup apprécié cet homme simple, très simple quand même, vous rendez compte, il est nommé roi, il ne cherche même pas du tout à se faire une cour, etc. Humble, courageux, obéissant, enseignable et plein de la grâce de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que ça me rappelle ce qu'on vient de faire là avec David. Après la victoire de Yabesh, ses soldats étaient enthousiastes. Vous savez, une victoire militaire, butin, vous imaginez, tout ça. Parce que bon, les gens, quand ils venaient assiéger une ville, ils emmenaient leur butin avec, hein, les moutons, les chèvres, il fallait manger. Donc, il y avait un butin énorme. Et ces soldats étaient vraiment heureux, mais on ne peut pas imaginer. Et ils viennent le voir et lui disent, « Saül, maintenant, tu sais ce que tu vas faire. On va célébrer la victoire. Eh bien, tous ceux qui se sont moqués de toi, là, il y a quelques semaines, quand Samuel t'a nommé roi, tous ceux qui ont dit, « Pouh, oh, Saül, roi, ha, ha, ha. » Eh bien, ceux-là, on va les tuer. Ça va être la fête. » Et là, c'est là qu'on voit qui était Saül au début. Rempli de grâce, il dit, « On ne mettra personne à mort en ce jour, car aujourd'hui, le Seigneur a réalisé une victoire en Israël. » Pourtant, c'était lui qui avait quitté ses bœufs et ses champs, qui avait marché toute la nuit avec ses soldats, qui avait organisé la stratégie, qui avait attaqué. Et qui avait... Ça ne devait pas être marrant quand même, hein. Je veux dire, les guerres à cette époque-là, les flèches volaient dans tous les sens. Évidemment, ce n'était pas des obus, mais c'était quand même pas drôle. Ils ont sué sang et eau. Et puis, qu'est-ce qu'il dit ? Le Seigneur a réalisé une victoire en Israël. Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Pas du tout. Ce n'étaient pas des guerriers aguerris comme les Ammonites qui passaient leur temps à attaquer les petites villes à droite à gauche. Donc dit, on mettra personne à mort car le Seigneur a donné la victoire. Vous vous souvenez ce qui s'est passé quand on l'a vu la semaine dernière, je crois, au torrent, comment il s'appelait déjà, l'Oued, où ils se sont rassemblés, les 200 hommes qui n'avaient pas voulu suivre. Et là, David avait réagi de la même manière. Il avait dit, non, on va partager le butin, on ne va pas les renvoyer sous prétexte qu'ils ne nous ont pas suivis. Ça, c'est important. C'était le cœur de Saül était exactement comme celui de David. Alors, vous savez, souvent, j'ai passé du temps à vous mettre en opposition, Saül, David. Mais au départ, c'était la même chose. Il était exactement comme le cœur de David, rempli de la grâce de Dieu, et il offrait cette grâce aux autres. Et vous savez, parfois, quand on n'offre pas la grâce, ça ne veut pas dire approuver, hein. Attention. Mais offrir la grâce, c'est parce que soi-même, on a reçu la grâce de Dieu. Et il faut se poser la question, quand on se montre dépourvu de grâce, je pense que c'est bien de se poser la question, ça nous arrive à tous, se dire, mais est-ce que je suis toujours reconnaissant de la grâce que Dieu m'a faite ? C'est ça qui change tout. Dieu m'a donné la victoire, non, je ne vais pas en faire un jour de massacre, transformer un jour de victoire en un jour de massacre. Non, mais ce n'est pas imaginable. Et voilà les qualités qu'il montre. Il va penser plus à celui qui a donné qu'au don. Pense au Seigneur plutôt qu'à la victoire. Je suis grand et fort, j'ai eu la victoire. Pas du tout. Il pense au donateur. Il pense plus au Seigneur qu'à sa royauté personnelle et à ses capacités militaires. Il aurait pu dire, on s'est bien battu les gars, marché toute la nuit, stratégie parfaite, bon partout. Le Seigneur a donné la victoire. Waouh. Il pense à l'intérêt du peuple. Ah, ça, pour un roi, c'est important. Hein. Je ne sais pas combien on a d'hommes politiques qui pensent à notre intérêt. Ça vaudrait le coup de faire le compte. On n'aurait pas besoin de gros livres pour mettre les noms. Je pense, que ce soit député, sénateur ou ministre, je ne sais pas combien, je ne vais pas être trop méchante, je ne sais pas combien ont à cœur l'intérêt des habitants du pays. Vraiment. C'est normal. C'est humain. Mais lui, il a l'intérêt du peuple à cœur et il ne veut pas rentrer dans la vengeance. Pas du tout. L'intérêt du peuple avant tout, la vengeance personnelle, il laisse tomber. Ceux qui ne l'aimaient pas, ce n'est pas un problème. Et puis, la crainte de Dieu. Plutôt que de suivre ses supporters. Il commençait à avoir une cour autour de lui. D'ailleurs, dès qu'il avait été nommé, hein, on voit qu'il y a des gens qui l'ont suivi. Des hommes courageux dont Dieu avait touché le cœur. Un verset que j'aime beaucoup. C'est pas seulement courageux, mais Dieu avait touché leur cœur. Et donc il avait des supporters autour de lui qui étaient prêts, certainement, à dire « Allez, on se débarrasse de ceux qui sont contre nous. » Non, la crainte de Dieu d'abord, la grâce de Dieu. Il était cet homme-là. Il faut s'en souvenir quand on pense à Saül. C'est pas seulement le renégat qui va consulter une magicienne. Il a été cet homme-là. Et c'est ce qui va permettre à Samuel, là, après cette bataille, de confirmer la royauté de Saül à Gilgal. Alors, comment est-ce que Saül a pu se laisser glisser aussi bas ? Vous avez vu le portrait que je viens de faire. Comment est-ce qu'il est pu devenir, il a pu devenir cet homme qui va jusqu'à se suicider parce qu'il n'a plus aucune espérance ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et la clé de ce qui s'est passé, c'est dans 1 Samuel 15, verset 17. Et ça, c'est un verset que je répète souvent parce qu'il est important. 1 Samuel 15, verset 17, dans ma traduction, c'est « N'est-ce pas lorsque tu étais petit à tes propres yeux que tu es devenu le chef des tribus d'Israël ? N'est-ce pas quand tu étais petit à tes propres yeux que tu es devenu le chef des tribus d'Israël ?» Être petit à nos yeux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être petit à nos yeux ? Alors, il y a des chrétiens qui pensent parfois qu'il faut se mettre à plat ventre par terre, être le paillasson pour tout le monde. Ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Être petit à ses yeux, eh bien, c'est le contraire de se trouver très grand, tout simplement. Être petit à ses yeux, ce n'est pas être minable. se rendre minable pour essayer de faire plaisir à Dieu. Il y a des tas de gens qui l'ont fait. Ils se sont battus, ils se sont fait toutes sortes d'horreurs pour vraiment s'humilier, etc., se faire souffrir. C'est pas du tout ce que Dieu a demandé. Simplement demander qu'on soit petit à ses yeux. C'est-à-dire qu'on ait notre vraie dimension. Si Dieu est vraiment le créateur de l'univers, mais qui sommes-nous ? Si Jésus a donné sa vie pour le pardon de nos fautes, pour qu'on soit débarrassé de notre culpabilité, qu'on puisse vivre une vie en communion avec Dieu sans avoir toujours à battre notre couple. C'est pour quelque chose, c'est parce qu'on a de la valeur à ses yeux, mais qu'on reste petit à ses yeux. On n'est pas grand devant tout ça, devant le sacrifice de Jésus. On n'est pas grand, hein, mais pas minable. Attention. Samuel avait dit, si vous faites du mal, vous serez emportés, vous et votre roi. Vous savez, il les avait prévenus quand il a nommé le roi. Il dit, vous faites une bêtise. Et d'ailleurs, on le voit, après, vous avez tout le livre de Samuel, après, vous avez les chroniques, 1, 2 chroniques. Alors là, vous avez l'histoire des rois d'Israël, et c'est démoralisant. Bêtise sur bêtise, idolâtrie sur idolâtrie, le cœur humain, quoi. Voilà. Et il les avait prévenus, il dit, si vous faites du mal, vous serez emportés, vous et votre roi. Et malheureusement, cette prophétie s'est accomplie mot pour mot, vous et votre roi. La bataille a été décisive, Israël a été vaincu, les villes ont été prises par les Philistins et le roi et sa famille ont été tués. C'est exactement ce qui est arrivé. Alors maintenant, on va avancer un tout petit peu dans 2 Samuel, parce qu'on va clôturer avec ça. Et vous allez voir les différences de vue entre ce texte qu'on vient de lire et ce qu'on va lire maintenant. Et les théologiens se sont un peu battus là-dessus, pourtant, voilà, vous allez voir. Après la mort de Saül, David qui avait battu Amalek, vous vous souvenez, il avait récupéré les femmes, les enfants, tout ce que Amalek le butin, s'en retourna à Tsiklag. Bon, Tsiklag avait été incendié, mais ils ont essayé de s'y remettre comme ils pouvaient. Hein. Et il resta 2 jours. C'est important, le 2 jours. Vous savez, tous les mots ont leur importance dans les textes bibliques. Vous allez voir pourquoi. Le 3e jour, un homme arrive du camp de Saül. Bah oui, il avait marché plus de 100 kilomètres. Peut-être il avait un cheval ou un âne, mais il venait de loin. Donc ça explique le temps qu'il avait mis pour venir. Un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Il y a un peu de mise en scène là, hein, vous remarquerez. Arrivé auprès de David, il tomba à terre prosterné. Waouh, quel respect. David lui demanda, d'où viens-tu ? Il lui répondit, je me suis échappé du camp d'Israël. Ça fait un peu théâtre, hein. David lui demanda, que s'est-il passé ? Dis-moi, je te prie. Et là, je pense que David commençait, évidemment, il pensait à son ami Jonathan, hein. Et lui, il aurait dû être dans cette bataille. Mais de l'autre côté. Ou alors il aurait trahi, il aurait été avec l'Israélite. Dans tous les cas, c'était un poids pour lui, c'était une réelle tension. Il répondit, les soldats ont fui le combat. Oui, aïe, aïe. Beaucoup d'entre eux sont tombés et sont morts. Il avance tout doucement. Hein. Saül lui-même et Jonathan, son fils, sont morts. C'est ça qui intéressait David. Aïe, son meilleur ami est mort à la guerre. David dit au jeune homme qui lui faisait ce rapport, mais comment sais-tu ? Vous voyez qu'il était un peu méfiant, hein ? Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ? Parce que quand même, dans une bataille, on voit maintenant, hein, ils font des reconstitutions de grandes batailles, c'est un de ces fouillis pour s'y retrouver là-dedans, je ne sais pas comment ils faisaient. Le jeune homme qui lui faisait ce rapport répondit, il avait réponse à tout, il avait préparé son truc. « Je me trouvais au mont Gilboa. Saül s'appuyait sur sa lance, serré de près par les conducteurs de chars. » Il a le sens du théâtre, lui. Hein. Il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé. J'ai dit oui. Non, mais il faut se rendre compte qu'il y a quand même une part de théâtre dans son truc. Et ça, David l'a senti. Hein. Il m'a demandé, qui es-tu ? On se demande pourquoi, mais bon. Je lui ai répondu, je suis un Amalécite. Il m'a dit, arrête-toi près de moi, je te prie, et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, même si je suis encore plein de vie. Ok ? Je me suis arrêtée près de lui et je lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa chute. En plus, il se justifie. J'ai pris le diadème. Alors, diadème, attention, ce n'était pas une couronne. À l'époque, les rois portaient une bande de tissu qui nouait autour de la tête. Et il y avait en général une petite plaque de métal. Mais ils ne se baladaient pas avec leur couronne. Vous imaginez la reine d'Angleterre faire ses courses avec sa couronne, ce serait compliqué. Donc voilà, c'était ça, la couronne. J'ai pris le diadème qui était sur sa tête et la chaînette qu'il avait au bras. Et je te les apporte ici. Il avait pensé à ramener les preuves. David saisit ses vêtements et les déchira. Tous ceux qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple, du Seigneur et de la maison d'Israël qui était tombée par l'épée. Alors là, on va se dire, mais enfin, David, pourquoi est-ce que tu pleures? Cet homme a passé ses dernières années de vie à essayer de te tuer. Et toi, tu n'as jamais voulu répondre. Ben oui, et moi, après ce travail-là, je me dis, je comprends pourquoi. Il se rappelait de tout ce qu'il avait vécu avec Saül. Le Saül qui était embêté quand il a dû se battre avec Goliath et lui dire, non, mais attends, je vais te passer mon armure, mais tu peux pas, t'es trop jeune, tu vas te faire complètement ratiboiser, c'est pas possible. Ce Saül qui avait de l'affection pour ce jeune qui était un peu fou, qui voulait combattre Goliath, et puis après, qui était rempli d'admiration, après avoir vu qu'il revenait avec la tête de Goliath, il a eu le courage. Ce Saül qui lui avait demandé de jouer de la musique pour calmer ses angoisses. Enfin, ils avaient des bonnes relations ensemble. Donc, c'est de ça qu'il se souvenait. Et ça lui faisait mal au cœur qu'il ait fini comme ça. On voit que David avait un cœur, j'allais dire un cœur de chair et pas un cœur de pierre. Parce qu'il trouvait tellement dommage que cet homme de valeur, vous avez vu quand même, c'était quelqu'un Saül au début, que cet homme de valeur soit tombé si bas et soit mort si bêtement. Et puis Jonathan, bien sûr, son meilleur ami, il espérait que ce serait son bras droit, il espérait que ce serait son premier ministre en quelque sorte, il lui avait promis. Jonathan lui avait sauvé la vie, je ne sais pas combien de fois. Et ils avaient combattu ensemble, ils avaient fait des choses fantastiques. En plus, c'était des coquins tous les deux, ils allaient attaquer les postes de Philistins par surprise, ils grimpaient sur des falaises, enfin ils faisaient des folies tous les deux. C'était deux jeunes militaires un peu fous parfois. Mais ils y allaient avec la foi pour que le peuple vive dans la paix. Tout ça, ça lui est revenu, évidemment. Lamenter, pleurer, déchirer les vêtements, c'était un signe de deuil à l'époque. Je sais que mes cinquièmes, ils n'arrivaient pas à comprendre ça. Quand je leur disais, oui, les gens se déchiraient leurs vêtements, ils disaient, oh ben mince alors. Je ne vais pas déchirer mon beau t-shirt Nike ou je ne sais quoi. Mais c'était vraiment un signe de deuil. Ça et la cendre sur la tête, ça amusait beaucoup les enfants. Bon, c'était un signe de deuil. Nous, maintenant, on met des petits rubans noirs. Les Occidentaux sont posés. Flegmatiques et tout et tout. Et à cause du peuple aussi. Le peuple avait perdu, ça veut dire qu'il avait perdu tous ses biens, ses villes. Vous imaginez, c'était une déportation totale. Il devait partir. Toutes les villes avaient été prises par les Philistins sur toute une région. Pas partout, mais toute une région. À cause du Seigneur aussi. Pensez que les armes de Saül ont été exposées dans les temples et ça voulait dire notre Dieu est plus fort que leur Dieu. Et ça, quand on aime Dieu, ça fait mal au ventre. Donc il y avait de quoi ? Je veux dire, ce n'était pas de la comédie. Il était vraiment, vraiment attristé dans l'affliction. Et puis, c'est intéressant, juste après, je crois qu'il commence à intégrer tout ce qu'il a remarqué. Et il demande au jeune homme qui lui avait fait le rapport, « Mais d'où es-tu ?» Il l'avait déjà dit, mais il lui fait répéter. Hein. Il répondit, « Je suis le fils d'un immigré amalécite. » Il n'est pas idiot, le gars. Parce que immigré, dans la loi, il y avait une protection pour les immigrés. Dans la loi de Moïse, il y avait une protection particulière pour les immigrés. Tu traiteras l'immigré, avec justice, etc. Et oui. Et l'immigré était protégé. Il y avait des lois pour lui. Et donc, en disant, je suis un immigré amalécite, ça voulait dire, je suis venu habiter dans ton pays, vous m'avez accueilli, tu dois respecter la loi. Mais amalécite, ça faisait un peu mal au cœur parce qu'on savait que les amalécites étaient des gens qui profitaient de la faiblesse. Chaque fois que le peuple était en état de faiblesse, ils attaquaient et toujours par derrière. David lui dit, comment as-tu pu oser porter la main sur l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur et le faire périr ? David appela l'un de ses serviteurs et lui dit « Approche, exécute-le ». L'homme frappa l'Amalécite et celui-ci mourut. Et David lui dit « Que ton sang soit sur ta tête, ta bouche a témoigné contre toi, puisque tu as dit « J'ai mis à mort l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur ». Alors on se dit « Ça, c'est pas très logique ». Ben, il avait raconté des bobards. Parce qu'en fait, le texte qu'on a lu avant raconte, lui, les choses. Et c'est celui qui est repris dans les chroniques. Si on fait une étude de texte toute simple, hein, en dehors de la foi, c'est ce texte-là qui est conservé. Donc, il a raconté des histoires. Mais il n'était pas bête, ce gars. Et les Amalécites avaient cette capacité, hein, de trouver des bonnes occasions, d'attaquer quand il fallait, de se débrouiller, de raconter ce qu'il fallait. Et il s'est dit, voilà, je sais que Saül est son ennemi numéro un, Saül a passé les dernières années de sa vie à essayer de tuer David. Moi, maintenant, je vais être le libérateur. J'ai tué l'ennemi du futur roi. Vous savez bien qu'il sera le roi suivant. Je vais me faire bien voir. Mais il a oublié que David n'avait pas un cœur de pierre. Et il a oublié que David avait le respect de Dieu. Et franchement, il n'a pas réfléchi, le gars. Il a fait tout son cinéma. Mais j'admire là le discernement de David. Il ne s'est pas laissé embobiner. Ça, c'est impressionnant. Il aurait pu. Parce que quand même, il en avait vécu de dur aux mains de Saül. Il aurait pu quelque part dire... Ouf. Mais il a bien vu depuis le début. D'ailleurs, vous avez vu en lisant, on voit bien qu'il n'est pas clair, le gars. Il y a des tas de choses qui ne vont pas. Très, très, très théâtral. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué. Où est-ce qu'on a ça ? Voilà. L'Amalécite en question, ce jeune Amalécite, avait profité de dépouiller le cadavre de Saül. Ah, ça vous dit rien, ça ? Qu'est-ce que Dieu avait demandé à Saül ? Et il avait désobéi. Tu vas repousser les Amalécites. Tu vas même pas garder leurs animaux. Tu vas vraiment les rayer de la carte. Parce qu'ils ont attaqué le peuple quand il était faible. Ils ont attaqué le peuple quand il était fatigué. Ils ont attaqué les femmes et les enfants qui étaient derrière. Ils ont usé de trahison, de méchanceté innommable. Ils ont toujours été vos ennemis. Ils ont toujours agi avec traîtrise. Tu les repousses. Et qu'est-ce qu'il a fait, Saül ? Il a gardé le roi parce qu'il espérait avoir une rançon. Il a récupéré le butin sous prétexte que, bon, le peuple avait envie de le garder, etc. Vous vous souvenez ? Et ça s'est très mal passé. Et Samuel a dit, mais enfin, c'est pas possible, tu peux pas obéir quand tu as un ordre. On ne garde pas des otages. On fait la guerre. C'était une autre époque. Et en fait, le cadavre de Saül va être dépouillé par un Amalécite. Si il avait fait ce que Dieu lui avait demandé, l'Amalécite n'aurait pas été là. Parce qu'il y a même des Amalécites, vous voyez, qui s'intégraient au peuple pour bénéficier des mêmes choses, j'imagine, sans pour autant changer leur comportement. Donc ça, c'était quand même impressionnant que le cadavre de Saül ait été dépouillé par un Amalécite. Alors, maintenant, on va lire la complainte de David, parce que David, vous savez qu'il aimait écrire des chants, des poèmes. Alors moi, je ne suis pas très forte pour faire les explications de texte des poèmes, mais j'ai juste retenir quelque chose, quelques petites choses importantes. Donc c'est 2 Samuel 1, 17. David entonna cette complainte sur Saül et sur son fils Jonathan, et il dit de l'apprendre au fils de Judas, c'est le chant de l'arc, il est écrit dans le livre du Juste. Alors je me suis renseignée, c'était visiblement un livre qui contenait des chants que les gens chantaient quand ils s'entraînaient pour la guerre avec les arches, avec des arcs, avec les archers du roi. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu retenir, mais on n'en sait pas beaucoup plus. On n'a pas retrouvé de documents. Ton élite Israël a été transpercée sur les hauteurs. Comment des héros sont tombés ? Ça, c'est important. Ça va être le refrain. Comment des héros sont tombés ? Et c'est vrai, c'est ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Comment est-ce que des gens comme Saül, qui étaient si bien, ont pu tomber ? Ne l'annoncez pas dans Gath, n'emportez pas la bonne nouvelle dans les rues d'Askelon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, que les filles de ces incirconcis n'exultent. Pourquoi ? Parce que, vous vous souvenez ce qu'avaient dit les rois philistins, les princes, allez dans toutes les villes, annoncer la victoire, montrer les armes, et aller mettre l'armure de Saül, et tous ses biens, enfin, l'armure, l'épée, etc. Allez les mettre, et sa tête aussi, voilà, dans les temples de leur dieu, et de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. Pourquoi ? Eh bien, imaginez que David vivait encore en pays philistin, à Tsiklag. Et David, il entendait les bruits dans les villes autour, les chants de triomphe des Philistins. Astarté est plus forte que le dieu des Hébreux. Et c'était dur à lui pour supporter ça. Ça lui était dur. N'emportez pas la bonne nouvelle dans les rues de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. C'était des réjouissances extraordinaires. Alors, je ne sais pas si vous avez le souvenir des réjouissances en Palestine quand les Twin Towers sont tombés. Ils se sont dépêchés de les enlever, mais au début, on les a eus sur les médias. Les réjouissances. Mais c'était ça. Ça aussi, c'est une réminiscence de la culture, l'ancienne culture des Philistins. Montagne de Gilboa. Qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ fertile. Ouais, c'était la coutume, ça, de maudire même le terrain sur lequel s'était passée la défaite. Car c'est là qu'ils ont connu l'abjection, les boucliers des guerriers, le bouclier de Saül qui n'a pas été oint d'huile. Alors, le bouclier était en cuir, on le recouvrait, on le frottait avec de l'huile pour que quand les flèches arrivaient, elles aient tendance à glisser. Voilà la question. Mais c'était aussi un symbole d'onction, donc on ne sait pas trop dans quel sens c'est utilisé. Je n'ai pas trop l'esprit poétique, je vous laisse réfléchir là-dessus. Devant le sang des victimes, devant la graisse des guerriers, l'arc de Jonathan ne reculait pas. Et l'épée de Saül ne sortait jamais en vain. Saül et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Ils étaient plus rapides que des aigles, ils étaient plus forts que des lions. Et là, on voit comment il se rappelait des batailles qu'il avait faites avec Jonathan et Saül. Fille d'Israël, pleurez sur Saül. Pendant qu'il y avait les chants de victoire hein, dans le pays philistin. Il vous revêtait d'écarlate et de délices et mettait sur vos habits une parure d'or. Vous vous demandez d'où ça sort, ça ? Eh bien, simplement que la coutume à l'époque, c'est que quand on faisait la guerre, on ramenait du butin. Et quand les soldats rentraient, ils faisaient des sortes de processions. Les Romains faisaient ça aussi, d'ailleurs. Et ils faisaient des sortes de processions de victoire et ils distribuaient le butin. Et évidemment, toutes les filles étaient dans les rues et criaient et chantaient « Ouais, victoire à nos soldats !» Rappelez-vous les images que vous avez de la libération sur les Champs-Élysées. Bon, vous voyez qu'on n'est pas si loin de ça. Hein. C'est cette joie du triomphe. Et les soldats distribuaient, non pas des chewing-gums comme les soldats américains, mais ils distribuaient des bijoux et des vêtements qu'ils avaient pris sur le bulletin. Donc, c'est à ça qu'ils pensent. Donc, on voit un peu les images qui tournent dans la tête de David, dans son chagrin. Il pense à tout ça, l'arc de Jonathan qui reculait pas, l'épée de Saül qui sortait jamais en vain. Et puis, vous êtes morts ensemble, le père et le fils. Il reconnaît que c'est la loyauté de Jonathan qui l'a amené là. Loyauté certainement mal placée, mais bon. Ils n'ont pas été séparés, ils étaient plus rapides que des aigles. Je pense que quand il dit « ils n'ont pas été séparés dans leur mort », il pense à ce que Jonathan aurait pu être. Mais bon. Ils pleurent dessus aussi. Ils étaient plus forts que des lions, etc. Fille d'Israël pleurait sur Saül. Voilà. Comment, et on retrouve le refrain, comment des héros sont tombés au milieu du combat ? Comment c'est possible que des héros militaires comme ça soient tombés ? Eh bien, je pense que la réponse, elle est dans ce que aussi bien Saül que David ont dit. Dans les cas difficiles, c'est l'Éternel qui donne la victoire. Et si Dieu n'est plus avec nous, on a beau être le meilleur des soldats, on a beau avoir la meilleure des stratégies. Si Dieu n'est plus avec nous, c'est fichu. Et là, c'est ça. Comment des héros ont pu tomber au milieu du combat ? Des héros militaires. Et c'était des héros. Hein. Jonathan a été transpercé sur les hauteurs. On voit l'image qu'il a là. Il sait ce que c'est que la guerre. Il sait ce que c'est que d'être transpercé par des flèches ou des lances. Ça devait être assez... Et parce que la mort devait être assez longue à venir. À cause de toi, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse. Je pense que ces images de guerre lui passent dans la tête. Tu m'étais si cher. Alors, un verset qui pose problème à beaucoup de gens. Ton amour était plus merveilleux pour moi que l'amour des femmes. Alors, soit l'amour que les femmes portent ou l'amour qui est donné, on ne sait pas trop d'après la tournure. Comment des héros sont tombés, les armes ont été anéanties. Des héros sont tombés. Alors, ce verset ne veut pas dire que Jonathan et David étaient homosexuels. Absolument pas. C'était même pas imaginable à l'époque. On n'est pas au 21e siècle. Il ne faut pas faire de transfert. De civilisation, d'anachronisme, hein, et remettre nos valeurs et nos histoires 30 siècles en arrière. Hein. Par pitié, on ne fait pas ça, et c'est ça, c'est les mauvais historiens, heureusement il n'y en a pas beaucoup, qui s'amusent à imaginer que les choses étaient comme maintenant, les valeurs étaient les mêmes, etc. Non, les valeurs étaient fondamentalement les mêmes, mais la mise en pratique de la vie quotidienne, rien à voir. Donc c'est exclu d'utiliser ce texte. Quand on connaît un tout petit peu la civilisation, quand on connaît la loi de l'époque, etc., c'est même pas imaginable. Il faut tenir compte du contexte historique, quand même. C'est la moindre des choses. Même en dehors de toute croyance, c'est pas imaginable. Dans le contexte historique d'Israël, c'était pas du tout imaginable. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi très douloureux pour David ? Aussi, je pense que Saül est mort sans changer vis-à-vis de David. Il n'y a pas eu de demande de pardon, il n'y a pas eu de réconciliation vraie. À chaque fois, il disait « Oh non, David, mon fils, c'est fini », puis il recommençait. Et ça, c'est dommage. Je pense que ça devait faire un chagrin énorme à David. Jonathan, bien sûr, était son meilleur ami, il lui avait sauvé la vie, ils avaient combattu ensemble. On comprend, là, on comprend la douleur. Mais aussi, je pense, la douleur qu'il avait fait le mauvais choix. Et je pense que c'est dans ce verset, ils n'ont pas été séparés dans leur mort. Ça devait lui faire de la peine. C'est encore plus triste, parce qu'il sait que cette mort-là aurait pu être évitée. Peut-être pas celle des autres, mais celle de Jonathan pouvait être évitée, si Jonathan l'avait suivi. Mauvais choix, c'est triste. Quand on sait qu'un mauvais choix aurait pu être évité, c'est vrai que ça fait deux fois plus mal. Le chant funèbre, c'était un devoir d'État pour honorer les morts, qui sont morts en défendant leur patrie, ça existe encore. David vit encore près des Philistins et lui, il entendait leur chant de triomphe, donc c'était doublement difficile pour lui. Mais il n'avait jamais considéré la mort de Saül comme un châtiment mérité. Et ça, c'est incroyable. Donc, à aucun moment, on sent chez lui le « Ah, bah, il ne l'a pas volé, celle-là hein. !» Et nous, parfois, je dois reconnaître que quand je lis les nouvelles et que... je vois que certains personnages très cruels de Daesh ont été tués. Je dis, ouf. Bon. On a ce sentiment hein, de justice, de vengeance. Il faut peut-être y faire un petit peu attention. Ne pas se réjouir. Parce que finalement, ce sont des humains aussi, même s'ils se sont comportés pire que des animaux. Mais ce sont quand même des humains. Ça veut pas dire qu'on leur donne raison, hein. Vous voyez, il y a quand même une différence dans la Bible tout le temps entre donner raison à quelqu'un, approuver ses valeurs et se comporter avec une certaine grâce, etc. Et c'est ça, c'est difficile. Jésus le fait très bien. Il nous aime, il prend soin de nous. Et chaque fois qu'on fait une ânerie monumentale, ou plus petite, mais il nous aime toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous approuve. On l'a vu. On le voit dans la Bible d'un bout à l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'il nous approuve, mais il nous aime. Et il est prêt à nous pardonner si on veut venir vers lui. Ça, c'est incroyable. Parce que nous, on a du mal. On a vraiment du mal. À accueillir, aimer, tout en n'approuvant pas. Et pourtant, c'est ce que Jésus fait tout le temps. Sinon, il y a longtemps qu'il nous aurait laissé tomber. Hein. Parce que franchement... on en collectionne parfois des bêtises. Donc, pour David, son attitude de pardon fait que son deuil est bien réel. Moi, quand j'étais petite, je me demandais. Hein, je me disais, j'aimais bien l'histoire de David et je me disais, c'est un petit peu un deuil de circonstance quand même. Mais quand on étudie le texte de près, on voit que non. Toutes ces images qui passent dans sa tête, on voit bien qu'il y a une réelle souffrance. Il se rappelle des bonnes choses, des bonnes relations qu'il a eues avec ces gens. Après, la douleur patriotique, il y a la peine personnelle, et puis la mort de Jonathan qui lui pèse énormément. Alors, après avoir lu ce poème, on pourrait se dire quel gâchis. C'est un peu le mot qui m'est venu à la tête, quel gâchis. Comment des héros sont tombés. Finalement, on finit par dire comme David, trois fois il le dit dans son chant. Comment des héros sont tombés. C'est un refrain, mais Saül est tombé spirituellement et psychologiquement bien avant de tomber dans la guerre. Ecclésiaste 7 dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement », je l'ai déjà dit la dernière fois. Et Hébreux 13, 7 dit « Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu, regardez l'issue de leur vie et imitez leur foi. » Et ma mère me disait toujours « Il faut regarder à la fin de la vie de quelqu'un. » Mais c'est vrai, les risques sont là quand on commence. Est-ce qu'on va tenir bon? Est-ce qu'on va rester fidèle? Il n'y a que Dieu qui peut nous garder fidèles. Donc que le Seigneur nous garde fidèles jusqu'au bout, qu'il nous garde petits à ses yeux et petits à nos yeux, humbles. Et je pense à ce chant, alors je ne sais pas si hein, il n'est pas là, Edouard, parce que ceux qui sont allés au GBU l'ont dû le chanter. « Garde-nous tout petits devant ta face, humble et pur comme un ruisseau, garde-nous tout petits devant nos frères et disponible comme une eau. » Je ne sais pas, ah, il y en a au moins une qui le connaît. J'aimais beaucoup ce chant. Garde-nous tout petits. On ne parle pas d'être écrasé, d'être minable. Mais tout petit, la taille juste devant le Créateur. Pour que le Seigneur soit honoré, que nos proches aussi vivent des victoires au lieu de vivre des défaites. Et que notre Église aussi vive des victoires. Il faut qu'on reste petit à nos yeux. Je pense vraiment que c'est le secret. Même si peut-être il y a des gens qui un jour diront « Waouh !» Restons petits à nos yeux. C'est la plus grande sécurité, si on veut retenir une leçon de la vie de Saül. Pour que si on commence bien, on puisse finir bien aussi. Et que le Seigneur soit honoré. Vous savez que c'est Paul, je crois, qui dit « Toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Toutes ces histoires de l'Ancien Testament, elles sont écrites pour nous servir d'exemple. Donc, qu'on en retienne vraiment quelque chose. Et moi, je sais que ce verset, il me tient à cœur. Restons petits devant sa face. Et puis, fidèles au Seigneur dans l'obéissance. Le Seigneur fera le reste.
Je ne peux pas m'empêcher de rajouter quelque chose, bien que ce soit parfaitement exposé, mais c'est par rapport à le ministère de la maison d'Élie. Vous savez, très souvent, les évangéliques, charismatiques, pentecôtistes, on met tout sur le dos du diable. Ah, le diable ceci, le diable cela, Satan, etc. Je me rappelais que Saül, où il y a eu un tournant dans sa vie, c'est quand il était jaloux, quand il est devenu jaloux de David. Vous vous rappelez ? Confirme. J'ai pas trouvé le verset, mais on peut le trouver. C'est un tournant aussi. La jalousie, on le traite dans le ministère de la maison d'Élie. Vous voyez pourquoi Michel et moi, nous sommes tellement contents de pouvoir permettre à l'Église d'entrer dans ce ministère, de l'exercer. Parce que souvent, ça commence avec des problèmes psychologiques. Jalousie, c'est un problème psychologique. Pas Satan. Qui est jaloux à votre place. Vous pouvez être jaloux de quelqu'un. Ouais. Donc c'est juste un exemple qui vous permet de montrer pourquoi nous voulons vous mettre à disposition ce ministère. Si tu l'as trouvé ?
Ah bah oui. Donc c'est 1 Samuel 18, verset 7. Les femmes qui jouaient de la musique se répondaient les unes aux autres. Saül a battu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül fut très fâché, cela lui déplut. Il dit, on donne des dizaines de milliers à David et à moi, on me donne les milliers. C'était déjà pas mal pourtant. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce jour, Saül regarda David avec malveillance.
Donc vous voyez, la jalousie. Si à l'époque il y avait le ministère de la maison d'Élie, c'est encore un anachronisme, ils auraient pu traiter cette question avec Saül. Parce que la malveillance, ça veut dire que c'est rentré en lui une malveillance vis-à-vis de David. Et voyez comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé mal à cause de la jalousie. Dans le chapitre 18, verset 19, il dit qu'il voyait David d'un mauvais œil. Oui, d'un mauvais œil. Qui est lié à cette malveillance. Et au chapitre 18, verset 29... Il est dit que Saül craignait David. Vous vous rendez compte, il craignait David. Donc vous voyez, la jalousie, alors je peux faire un développement sur la jalousie, hein, le ministère Maison des Lits fait mieux que moi, mais voilà pourquoi on tient à la Maison des Lits. Et pourquoi on voudrait vous mettre à disposition ce ministère et que vous puissiez reconnaître vos mauvais fruits. Parce que quand on reconnaît les mauvais fruits, bah, ça évite d'aller à la catastrophe. Parce qu'un jour, ce mauvais fruit, qui est lié à une racine, puisque la racine, c'est ce que Michel vient de lire, la racine a amené la jalousie. Et la jalousie a amené à craindre David, et toute la suite. Hein. Je ne vais pas redire ce que Michel a dit. Donc, vous voyez, l'origine, ce n'est pas Satan. L'origine, c'est psychologique. C'est qu'à un moment donné, on a soit un jugement vers quelqu'un, soit une jalousie envers quelqu'un, etc. Et vous voyez, ça peut faire tomber un ministère. On parle beaucoup de l'onction. Oui, mais ce n'est pas de la magie, l'onction, tant. C'est le Saint-Esprit qui est saint. C'est l'Esprit Saint, comme disent les catholiques. Le Saint-Esprit, il ne fait pas n'importe quoi. Il y a un respect à avoir par rapport à Dieu qui est saint. Et par rapport à Dieu qui est saint, il a dit « Purifiez-vous, soyez purs comme je suis pur ». Et donc ce ministère de la Maison des Lits qui amène à la repentance, ben, nous amène à traiter tous les aspects de nos vies qui ne sont pas bons. Et plus vous allez le faire, et bien plus vous pouvez porter un ministère sans tomber. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que Michel ne l'a pas cité, donc je vais le faire. Ma belle-mère, qui était une femme de prière et de discernement, un jour, quand on avait un ministère qui, à l'époque, était celui qui avait amené le ministère de délivrance par rapport aux démons en France, c'est François Didier Laurent. Tu te rappelles, Marie-France, voilà. On nous avait prévenus en disant attention, voilà, même Jules Taubois avait dit bon, voilà, c'est pas clair tout ça. Je dis mais écoutez, comme c'est le seul en France qui porte ce ministère, on veut apprendre à délivrer, comment chasser les démons. Donc on l'a fait venir, mais je l'ai prévenu devant tout le conseil. On était une quinzaine. Je dis attention, si tu fais quelque chose qui est pas biblique, nous on va te reprendre. Donc il s'est garé, il a fait attention à ce qu'il a fait, c'était bien. Après, on a vu qu'elle a dévié, hein, parce que la nature prend le dessus. Hein. Mais un matin, ma belle-mère qui était là, elle a dit « Dieu m'a parlé, j'aimerais te parler ». Et on était autour de la table, et il a dit « Dieu m'a montré que tant que tu es petit à tes yeux, tu dois rester petit à tes yeux. » Il était là, il disait oui, 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 oui. Bon, il a dit oui, oui. Et en fait, il n'est pas resté petit à ses yeux. Il a commencé à... Sa tête a gonflé. Les chrétiens l'ont appelé dans toute la France. Il était partout dans les séminaires en vue. Il faisait la délivrance. Il y avait voilà, dans toute la France, etc. Et bon, pour faire l'histoire courte, il a terminé de manière catastrophique. Catastrophique. C'est horrible ce qui s'est passé. Nos enfants étaient amis avec ses enfants. Il avait aussi une maladie, tout ça. Enfin, c'était super. Et puis, en fait, il a divorcé avec une femme extraordinaire, superbe et tout ça. Il s'est battu même physiquement avec son fils. Ils se sont complètement séparés. Il a terminé tout seul à mourir dans un hôpital. Tout seul. Tout seul. C'était une horreur. Je ne vais pas le comparer à Saül. Je vais simplement dire... Soyons petits à nos yeux. Soyons petits à nos yeux. Donc je voulais enfoncer ce clou. C'est que, et vous voyez, soyons petits à nos yeux, ce n'est pas Satan. Ah oui, mais Satan, machin. Non, non. Nous, soyons petits à nos yeux. Restons à l'endroit que Dieu nous a placé. Rendons gloire à Dieu pour les dons qu'il nous donne, si on a des dons. Mais restons petits à nos yeux parce que, il peut y avoir une grande catastrophe. Plus, d'ailleurs, on monte dans le service pour Dieu, dans le ministère, mais plus les risques sont grands. Donc, merci à Michel pour cet enseignement, pour ce mois famille qui se termine aujourd'hui. Et donc, on va reprendre nos activités normales. c'est un joke. Voilà. Et l'année prochaine, on aura le ministère de David. Donc on l'attend avec impatience pour nous... Vous voyez, toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et vous voyez, c'est une façon de lire la Bible. C'est au travers de ce qui se passe dans des personnages, tirer des enseignements pour nous. Sachant que dans les Épîtres, Paul, il le fait de manière plus rationnelle, voilà, plus abstraite. Mais vous voyez, la Bible s'adresse à toutes sortes de cerveaux. Hein, cerveau intuitif, cerveau rationnel. Parce que Dieu est les deux, intuitif et rationnel. Et donc, merci pour cet enseignement, qu'il soit vraiment bénéfique pour nous, pour l'Église et pour l'avancement du royaume de Dieu.